Le rôle le plus désagréable de la soirée, c'est de vous faire taire, essayer de vous faire taire pour que l'on commence cette soirée. Je vous remercie d'être aussi nombreux. On avait des inquiétudes compte tenu de la saison, on disait que ça va être difficile, mais finalement, je crois que le sujet et l'orateur vous ont semblé d'intérêt. Et donc, on est nombreux ce soir à venir entendre parler et débattre avec Claude Martin de la Chine, mais pas seulement de la Chine, puisqu'on a mis un titre un peu audacieux, savoir s'il y a une place pour l'Europe entre les États-Unis et la Chine. Et je m'apercevais tout à l'heure, en relisant la présentation qu'on a faite de la soirée, qu'on a passé sous silence la Russie, mais j'imagine que vous en direz quelques mots, parce que ce n'est pas inintéressant. On l'a vu il y a quelques jours, lorsque Donald Trump a annoncé qu'il allait remettre en cause le traité sur les armes nucléaires intermédiaires, le traité FNI, qu'il a été question, et ça a probablement surpris beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet, pas très connu, c'est vrai, dans le grand public, s'est mis à parler de la Chine et des armes de portée intermédiaire. Vladimir Poutine a dit « Oui, mais attendez, c'est qu'il y a la Chine également qui est à portée de missiles. » Donc, je ne veux pas anticiper sur ce que nous dira tout à l'heure Claude Martin. Je le remercie d'être là. Vous savez que c'est un grand spécialiste de la Chine. Il a été en poste à plusieurs reprises à Pékin. Il a été aussi en poste en Allemagne, à la Cour des comptes. Un CV extrêmement fourni que je vous ai transmis. Il aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et il évoque ces questions dans un gros livre qui vient de sortir sur son expérience et qui nous sera très utile dans le débat. Je me félicite que ce soir, on puisse continuer le tour du monde qu'on a entrepris depuis quelque temps, avec la dernière fois le débat sur l'Arabie Saoudite, un autre débat sur le Yémen. Nous avons parlé également il y a quelque temps de la Corée, sur des sujets plus nationaux, de la drogue, de la pauvreté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait qu'en France qu'il y a du problème de drogue et de pauvreté, mais nous avons traité de ces deux sujets. Et aussi, je vous rappelle, le colloque que nous avions fait l'an dernier sur l'intelligence artificielle, sujet qui est évidemment plus que jamais d'actualité, qui le sera encore longtemps. Nous avons mis quelques temps à faire le compte-rendu écrit, qui était assez compliqué, mais il est disponible sur le site du club. Donc vous pouvez y avoir accès. Je vous en conseille la lecture, pas intégrale, parce qu'il est très long, mais il y a des interventions qui sont particulièrement utiles. Désormais, il nous a semblé plus utile pour les dîners débats de les enregistrer et de mettre le lien, comme on l'a fait pour le dernier débat sur l'Arabie Saoudite. Donc vous allez sur le site, vous cliquerez sur « Écouter » et vous avez le débat intégral qui a été enregistré à propos de l'Arabie Saoudite. Et j'attire votre attention sur ce débat parce que vu ce qui se passe depuis quelques temps, bon, ce qui se passe en Arabie Saoudite au Moyen-Orient ne date pas de l'affaire Khashoggi et du Yémen, mais vous verrez qu'un certain nombre de questions qu'on avait évoquées lors de la dernière réunion sont terriblement d'actualité, ce qui montre tout l'intérêt de notre club, et je dis notre club en regardant Henri Paris, qui était président, qui a fait beaucoup de travail pour que ce club soit vraiment à la hauteur de ce qu'il veut être, c'est-à-dire un lieu d'écoute et de débat sur les problèmes de la démocratie, sur des problèmes de société, sur les problèmes d'un monde de plus en plus complexe et qui nécessite effectivement des discussions, de l'écoute, en prenant le temps d'écouter des spécialistes que nous allons faire ce soir avec Claude Martin, que je félicite d'avance pour tout ce qu'il va pouvoir nous dire d'intéressant sur le sujet. Donc, conformément à notre habitude, je vais lui passer la parole pour une présentation générale. Vous serez servi, vous entrez au fur et à mesure dans certaines discrétions pour éviter à l'orateur les bruits de fourchette. Et ensuite, le plat principal sera servi et nous aurons un débat à partir des questions que vous voudrez bien lui poser. Monsieur l'ambassadeur, je vous donne la parole.
Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci de me recevoir dans cette compagnie et merci de m'inviter à parler d'un sujet pour lequel je ne cache pas un grand intérêt et même une passion, qui est la Chine, mais qui n'est pas que la Chine. Ceux d'entre vous qui ont lu mon gros livre verront que, en fait, le sujet, c'est la Chine et l'Europe. Et tout au long des pages, des 947 pages de ce livre, vous verrez qu'au fur et à mesure que je m'enfonce dans la découverte de la Chine, je deviens de plus en plus européen. C'est un raisonnement que je n'ai cessé de conduire, d'approfondir, et auquel je reste fidèle aujourd'hui, tout en étant un peu sceptique aujourd'hui sur la capacité de l'Europe à imprimer sa marque, à jouer son rôle dans le concert des très grandes nations, et en particulier dans la relation avec la Chine. Alors peut-être deux ou trois mots de présentation pour expliquer comment j'en suis venu là. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mais j'ai eu le plaisir de retrouver certains amis dans votre club. Je me suis toujours intéressé à l'Asie et je me suis toujours intéressé à l'Europe. L'Asie parce que j'avais un oncle missionnaire qui était parti pour la Birmanie et qui a été décapité par un officier japonais en 1945 à la mission des Pères Blancs de Mandalay. Et ça m'avait marqué. J'avais un an. Mais quand j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, mes parents parlaient sans arrêt de cet oncle, qui avait été martyr, quelque part en Asie, victime de peuples que nous avions du mal à comprendre. Et puis là-dessus est arrivée l'Indochine, où nous avons vécu un drame national, quelles qu'aient été les opinions que nous pouvions avoir sur le conflit indochinois. Un traumatisme, la chute de Dien Bien Phu.
J'avais... Je pense qu'il faut parler, il faut tourner le micro vers vous.
La chute de Dien Bien Phu, j'avais 10 ans. Nouvelle interrogation, qui sont ces peuples asiatiques qui ne nous aiment pas, qui nous veulent du mal, etc.
Et puis...
Oui.
Alors, simplement, c'est une
histoire
d'orientation du micro.
Simplement. D'accord, alors je le mets comment? Comme ça?
Non,
comme ça.
Comme un crooner.
Écoutez, je vais essayer de ne pas ressembler à Johnny Hallyday. Est-ce que comme ça, tout le monde entend? Oui, ça va? Bon, voilà. Alors, en 1954, je dis de nouveau, conférence de Genève, c'était les débuts de la télévision, je me souviens d'avoir vu à la télévision... des Asiatiques qui étaient là, qui parlaient avec Pierre Mendès France, et on faisait la paix en Indochine, qui étaient ces Indochinois, et surtout derrière eux, ces Chinois, puisqu'il y avait Chuen Lai qui était là à la conférence de Genève. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'Asie, et quand, quelques années plus tard, ayant passé mon bac, je suis venu m'inscrire à Sciences Po, je me suis dit, Sciences Po, c'est un peu creux. On fait des études de sciences politiques un peu abstraites, je voudrais du concret. Je m'intéresse aux hommes, à l'humanité, à ce qui se passe dans le monde. Et je suis allé m'inscrire aux langues orientales, qui étaient à l'époque très proches. C'était rue de Lille, c'est-à-dire il suffisait de descendre la rue des Saints-Pères. Et les langues orientales, il y régnait une ambiance moins feutrée, moins guindée qu'à Sciences Po. Donc je me suis beaucoup plu aux langues orientales et j'ai fait des études de chinois et de russe. Et un peu vietnamien, aux langues orientales. Et puis j'ai passé l'ENA la même année, 64, et j'ai été reçu tout de suite, coup de chance. Et à l'époque, le ministre de la Défense que vous avez été, monsieur le ministre, n'avait plus à gérer ce problème, mais à l'époque, les élèves de l'ENA partaient faire leur service militaire tout de suite, avant même de faire la scolarité, parce que, bon, il y avait eu beaucoup de promotions, qu'il y avait eu des élèves qui avaient été tués en Algérie, et donc l'État avait pensé, dans un souci d'économie, qu'il valait mieux voir s'ils survivaient avant de leur payer une scolarité. Donc, 15 jours après avoir été reçu à l'ENA, j'entre au 5e régiment d'infanterie, je commence à recevoir mon équipement, et un gendarme se présente un soir à la caserne, au camp léger de Frileuse, à Feucherolles, et à côté de Feucherolles, et me dit « Vous êtes demandé ce soir même au cabinet du ministre des Affaires étrangères. » Donc je suis présenté au cabinet du ministre, transporté par ce gendarme, et j'ai été reçu par Bertrand Labrusse, que certains d'entre vous connaissent, qui a fait une grande carrière, notamment à la SFP. Et Bertrand Labrusse me dit, le ministre veut étoffer l'ambassade de France en Chine. On vient d'ouvrir une ambassade de France en Chine. Le général de Gaulle vient de reconnaître la Chine. Et l'ambassadeur que nous avons nommé, qui s'appelle Lucien Pei, se plaint à l'ambassade, il n'y a personne qui parle chinois. Alors on a vu dans vos fiches, il n'y avait pas encore les fichiers internet, mais quand même, l'administration était bien faite. Et il y avait quelque part une fiche disant que j'avais fait du chinois et que j'étais donc reçu à l'ENA. Et en l'espace de 15 jours, j'ai été envoyé en Chine. Donc le destin vous joue des tours comme ça. J'avais plutôt l'idée d'aller en Chine plus tard, mais certainement pas avec cette précipitation. Et j'ai eu l'occasion de passer ainsi 18 mois en Chine et de voir les débuts de la révolution culturelle. Donc ça a effectivement été très important. Mais ce qui a été très important, c'est surtout que j'ai compris tout de suite que ce pays était un immense pays, que le chaos dans lequel il sombrait n'était certainement que passager, mais qu'il allait ensuite se passer des choses très très importantes, que ça allait être une des grandes puissances, que le général de Gaulle avait évidemment été très 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 bien avisé de le reconnaître, bien avant d'autres, et que face à ce grand pays, et bien la France, c'était bien, mais si on était plusieurs, si on était les Européens, ça serait mieux. Et donc, entrant au Quai d'Orsay ensuite, je suis allé non pas à la direction d'Asie, mais à la direction des affaires européennes, pour m'occuper de l'Europe. Et j'ai fait tout un tas de négociations. La première, la plus importante pour moi, c'était l'adhésion de la Grande-Bretagne pendant 4 ans. Et puis un certain nombre d'autres, le Kennedy Round, le Tokyo Round, un certain nombre, l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, l'adhésion de la Grèce. Et je me suis en même temps et toujours passionné pour la Chine. C'est-à-dire j'ai obtenu de mes autorités successives un privilège qui était d'avoir le droit d'aller en Chine 2 fois par an pour entretenir mon chinois. Disons qu'au Quai d'Orsay, il y a très peu de gens qui parlent chinois, donc donnez-moi la permission d'aller là-bas. Et quand j'ai été appelé au cabinet du ministre, d'un grand ministre pour lequel j'ai un immense respect, qui s'appelle Michel Jobert, j'ai posé la condition sur la table tout de suite. Monsieur le ministre, je veux bien m'occuper d'affaires européennes auprès de vous, mais laissez-moi la possibilité d'aller en Chine 2 fois par an. Et j'ai, pendant tous les ans, pendant des années et des années, pendant plus de 6 ans, été en Chine, comme ça, régulièrement, jusqu'au moment où je me suis fait réaffecter en Chine. Et après, j'ai été ministre conseiller en Chine, j'ai été ensuite, bien plus tard, ambassadeur en Chine. Alors, de cette expérience couplée de l'intérêt pour l'Europe et de l'intérêt pour la Chine, est née l'envie de faire tout pour que l'Europe s'organise, pour que l'Europe ait la possibilité, au fur et à mesure que la Chine émergerait, parce que avant Alain Perfitte, je m'étais quand même dit que ce pays allait se réveiller, de travailler à ce que l'Europe ait une réponse organisée et structurée, cohérente vis-à-vis de la Chine. Et sans faire un rappel historique trop long, je dirais que l'histoire des 2 décennies qui ont été suivies, c'était l'histoire des rendez-vous ratés de l'Europe avec la Chine. Premier rendez-vous raté, c'est celui de 64. C'est-à-dire que la France envoie une ambassade à Pékin, c'est formidable, mais la première chose que les Chinois disent aux représentants du général de Gaulle, Lucien Pei, c'est « Où sont les autres ? Où est l'Allemagne ? Où est l'Italie ? Où est l'Europe ?» Et en fait, le général de Gaulle pensait qu'il ferait école, qu'il entraînerait ses partenaires dans une démarche pour une Europe européenne, jouant le rôle d'un des acteurs de la scène mondiale. Il avait très bien vu qu'il y avait les États-Unis, qu'il y avait la Russie, l'URSS, mais que l'URSS et la Chine, que tout le monde considérait comme un seul bloc, c'était déjà en fait 2 rivaux. Il y avait la Russie et la Chine, et qu'il y avait besoin d'un acteur européen pour avoir un monde plus équilibré, qui serait un monde multipolaire. Et donc, l'idée que les Européens allaient suivre était, je crois, dans beaucoup d'esprit à ce moment-là. Les Américains ayant très mal perçu le geste du général de Gaulle ont tout fait, évidemment, pour empêcher nos partenaires de nous suivre. Les Anglais étaient dans une position mitigée, c'est qu'à cause de Hong Kong, ils avaient l'obligation quasi, très claire, d'avoir un dialogue avec la Chine. Ils avaient une ambassade à Taïwan, mais ils avaient en même temps un bureau, qui n'était pas une ambassade, de chargé d'affaires à Pékin. Donc, nous sommes seuls dans cette, avec quelques pays nordiques, je ne dirais pas quelques petits pays nordiques, parce que les pays nordiques ne sont pas petits, mais bon, il y avait quelques pays neutres qui étaient là, mais disons les grands pays européens n'étaient pas là. Là-dessus, les Chinois compliquent quand même les choses avec la révolution culturelle qui rend pratiquement tout dialogue impossible. Et à partir de 1971, la révolution culturelle est pratiquement terminée, même si elle se termine complètement en 1978. En 1971, le diable qui était au cœur de la révolution culturelle, c'est-à-dire le maréchal Lin Biao, disparaît dans un trident quelque part dans le désert de Mongolie. Et à partir de ce moment-là, un dialogue commence à être possible. En 1974, il y a un petit bonhomme qui apparaît dans le paysage politique chinois qui s'appelle Deng Xiaoping et qui, en 1975, apparaîtra comme le futur homme fort. Nous l'invitons en France. Il fait une grande visite en France et il dit partout. Il dit à M. Giscard d'Estaing qui le reçoit à l'Élysée. Il dit à tous ceux avec qui il s'entretient, avec Jacques Chirac qui est Premier ministre. La France, c'est bien. Quand j'étais, moi, venu en France à l'âge de 16 ans, comme ouvrier chez Hutchinson, à Colombes, je considérais que la France était un très grand pays. Aujourd'hui, la France, c'est un pays admirable, mais ça serait mieux s'il y avait l'Europe autour. Donc, un langage, de nouveau, un appel très fort aux Européens à s'organiser pour être des partenaires de la Chine dans cette... Dans ce monde qui est en train de s'organiser. Le monde est en train de s'organiser, et le monde est en train de s'organiser de façon très, très, très importante à partir du moment où, en 1972, Richard Nixon, disant « Je marche dans les pas du général de Gaulle », Richard Nixon va à Pékin et fait un voyage à Pékin, établit des relations officielles entre les États-Unis et la Chine, mais des relations qui ne sont pas encore complètes parce qu'il ne veut pas lâcher Taïwan. Donc, système un peu comme les Anglais, un bureau à Pékin des États-Unis, mais pas d'ambassade. Nos partenaires commencent à se dégeler, l'Allemagne, l'Italie, quelques autres, le Japon ayant pris les devants, et tout le monde ouvre des ambassades à Pékin. Donc, 72 jusqu'à 79, c'est une période où la France et l'Europe savent que les États-Unis sont en train d'arriver. Ils ont déjà mis un pied en Chine, ils ne l'ont pas mis encore complètement. Il est temps de s'organiser entre Européens pour être un partenaire solide pour la Chine. Et au lieu de réagir de façon coordonnée, nous réagissons de façon très désordonnée. Les Français étant les premiers responsables, c'est-à-dire en disant « nous avons l'antériorité, le général de Gaulle, 64, etc. » Les Italiens disant « nous, on a Marco Polo », les Allemands disant « nous avons nos technologies », les Chinois ont surtout besoin de machines-outils, et c'est nous qui sommes là pour ça, etc. Donc l'Europe est en ordre dispersé, et il y a un effort à Bruxelles pour organiser une politique commune vis-à-vis de la Chine. Un premier accord commercial global entre l'Europe et la Chine est signé en 1978. Mais en 1979, les États-Unis ont changé de président, c'est le président Carter, et lui, Taïwan, c'est moins important pour lui, il considère que la Chine est pratiquement sur la voie de la démocratie. Il y a un enthousiasme presque délirant aux États-Unis pour les réformes en Chine, et on dit, voilà, dans 5 ans, la Chine sera devenue la plus grande démocratie du monde, il faut jouer à fond la Chine, Taïwan c'est tout petit, etc. Et donc, les États-Unis ouvrent une ambassade et des missions très puissantes à Pékin. Et à partir de là, l'Europe désorganisée a en face d'elle un concurrent énorme et très très important. Et moyennant cela, pendant 10 ans, 79-89, nous allons, nous, Français et les Européens en général, tenir à peu près notre place sur le marché chinois, mais de façon très désorganisée. C'est-à-dire que les Allemands prennent évidemment tout de suite le leadership en matière commerciale, fournissant tous les grands équipements dont la Chine a besoin, en concurrence avec le Japon. Nous, les Français, nous prenons, nous en parlions, monsieur le ministre, il y a quelque temps, nous prenons des créneaux très importants, l'énergie, et notamment le nucléaire, le transport, et notamment, évidemment, Airbus, et toute la chaîne de nos gros transporteurs, les télécommunications, et notamment dans la concurrence entre Thomson, CGE, enfin Alcatel, après, etc. Et puis aussi, trois points forts, il y en a un quatrième, c'est l'armement. Et nous avons été les rois de la modernisation de l'armée chinoise. Puma, Super Puma, hélicoptères, mais aussi radars, matériel de surveillance aéronautique, énormément, évidemment, télécommunications, système RITA, etc. Nous avons énormément fourni à la Chine de matériel. Et nous avions commencé à le faire sur une grande ampleur jusqu'au moment où, déjà, des complications sont arrivées. La Chine a voulu donner une leçon au Vietnam, parce que le Vietnam avait envahi le Cambodge. Le président Giscard d'Estaing a dit « Le Vietnam, c'est un petit pays que j'aime bien, il ne faut pas que les Chinois soient trop bien armés. » On suspend un certain nombre d'armements, de ventes d'armements sur la Chine pour qu'ils ne frappent pas trop fort les Vietnamiens. Mais enfin, dans l'ensemble, nous étions quand même les rois de l'exportation d'armements vers la Chine. 1989, Tiananmen. Bon, par un grand hasard que je raconte dans le livre, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu ou qui ont envie de le lire, je me trouve sur la place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. J'étais en train, comme directeur d'Asie, d'organiser une conférence de paix sur le Cambodge à Paris. Le principal personnage, le personnage clé pour faire une réconciliation de tous les Cambodgiens, c'était le prince Sihanouk, qu'il fallait remettre sur le trône comme roi du Cambodge. Le prince Sihanouk acceptait difficilement nos pressions pour qu'il puisse s'entendre avec son rival, le premier ministre Hun Sen. Et à un moment, Hun Sen a une parole un peu malheureuse sur le fait que Sihanouk, c'est un roi, mais un roi un peu potiche. Et Sihanouk repart à Pékin, s'enfuit à Pékin, quelques jours, à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Plus de conférence du Cambodge à Paris, puisqu'il n'y a plus de Sihanouk. Et donc, le président Mitterrand me charge d'une lettre qu'il a signée pour le prince Sihanouk, lui demandant de revenir à Paris, et de bien vouloir participer à la conférence. Et j'arrive à Pékin la nuit, enfin le soir du 3 juin, donc j'assiste en fait, alors que ce n'était pas du tout l'objet de ma visite, à tout ce qui se passe sur la place Tiananmen, où je me suis trouvé cette nuit-là. Ce qui est important, c'est surtout que 2-3 jours après, le gouvernement, on se souvient des déclarations très fortes du président Mitterrand, un régime qui tire sur sa jeunesse, etc. Bon, on interrompt, et Michel Rocard à l'Assemblée nationale dit « Je gèle toute la coopération avec la Chine dans tous les domaines bon. ». Alors on se demande ce que ça veut dire, je l'ai toute la coopération avec la Chine. Des grosses discussions ont lieu, des discussions avec nos partenaires, des discussions avec les Américains. Et le résultat, c'est qu'à la fin du mois de juin 89, à Madrid, Conseil européen, on décide 10 mesures. Il y en a 9 qui ne sont pas très importantes. Pas de visite officielle, pas de coopération culturelle, pas de... Et la dixième, pas de vente d'armement. C'est-à-dire que la France, qui était la seule concernée, se punit elle-même. Et je dois dire, je l'analyse dans le livre de façon très détaillée, que c'était... Je suis contre le... On pourra en discuter tout à l'heure. Je suis contre la politique des sanctions en général, qui aboutit au contraire de ce qu'on souhaite. Mais en l'occurrence, connaissant un peu l'armée chinoise, ce qu'on punissait, c'était la marine et l'aviation, qui étaient les deux ailes les plus libérales du régime, alors que c'était l'armée de terre qui avait fait le coup. Bon. Et donc, on a rompu tous nos contrats et 20 ans de travail avec la Chine, comme ça, en une seule décision. Et cet embargo sur la Chine est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est la seule mesure des 10 mesures qu'on a prises en juin 89 qui a été maintenue, et elle est maintenue essentiellement au détriment de la France. Je ferme la parenthèse. Ensuite, la France aggrave un peu son cas, me semble-t-il, en décidant que pour punir l'armée chinoise et les dirigeants chinois en général, on va faire une coopération militaire avec Taïwan, qui était l'ennemi à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Et pendant quelques années, on s'embarque dans une politique de vente d'armes à Taïwan, avec ensuite des complications, comme toujours sur les politiques de vente d'armes, il y a l'aspect visible et l'aspect occulte. L'aspect occulte a été parfois un peu nauséabond, et en tout cas, c'était extrêmement difficile. Alors, c'est le moment que le président Mitterrand et le ministre des Affaires étrangères, Roland Dubois, choisissent pour me nommer comme ambassadeur à Pékin. En deux mots, l'instruction que je reçois, c'est d'expliquer aux Chinois pourquoi on fait des choses qui leur sont désagréables et pourquoi on est obligé de les faire. Alors la première chose, c'était de leur dire que on va continuer à mener une politique de critique de la dictature chinoise. Bon, cette instruction-là ne me pose aucun problème. Je suis tout à fait prêt à être en Chine le porte-parole d'une France qui veut voir les droits de l'homme régner dans les grands pays du monde, et en particulier en Chine. Le deuxième point, c'est d'expliquer pourquoi on va vendre des armes à Taïwan. Le troisième point, c'est de dire que dans le même coup, on va peut-être essayer de voir un peu plus souvent le Dalai Lama. Et le quatrième, c'est que, bon, ben peut-être que s'il y a des mouvements indépendantistes au Tibet, on les soutiendra, etc. Donc ça faisait beaucoup dans mon paquet au moment de partir. Et j'ai obtenu de Roland Dumas que, au moins sur les ventes d'armes, il essaye de suspendre les choses, ce qu'il a fait pendant un certain temps. Pendant un certain temps, la politique de vente d'armes officiellement a été mise de côté en disant non, on ne fera pas ça, mais il faut que vous fassiez des efforts pour rétablir la démocratie chez vous. Je suis parti en me disant ça, c'est vendable. Et puis, au bout de quelques mois, le message s'est légèrement modifié. Et c'était, on ne vendra pas des armes à Taïwan si vous nous achetez des choses. Donc le message des droits de l'homme était un peu mis de côté. Et j'explique d'ailleurs dans le livre comment cet aspect des choses s'est même progressivement développé, avec des visites de Dominique Strauss-Kahn, à l'époque ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, venant à Pékin avec des listes en disant on est sur le point de vendre des frégates à Taïwan, et puis ça, il pourrait y avoir des mirages derrière, sauf si vous nous achetez pour 6 milliards de dollars avant le mois prochain. Donc c'était extrêmement difficile à tenir comme position. Connaissant les Chinois, il faut se comporter autrement avec eux, c'est-à-dire la politique du chantage et de la pression immédiate du couteau sous la gorge n'est pas celle qui marche le mieux. Et donc, nous avons été au bord de la rupture. Au bord de la rupture, dans la tradition diplomatique, ça veut dire que l'ambassadeur est convoqué en disant « Vous êtes renvoyé, persona non grata, on ne veut plus vous voir. » Et je suis convoqué un jour. On me dit « Ce que fait votre gouvernement est extrêmement désagréable, c'est même une politique hostile à l'égard de la Chine. » Mais au lieu de vous déclarer persona non grata, on vous demande de rester ici. Et tous les matins, vous serez convoqué pour recevoir une note blâmant votre gouvernement et obligeant votre gouvernement, nous l'espérons, à la fin, à se repentir. Ça a duré un certain temps. Je ne suis pas toujours allé aux convocations parce que j'estimais qu'il était indigne du représentant de la France de se laisser traiter ainsi, tout en comprenant évidemment l'irritation du gouvernement qui est en France. Et puis finalement, le gouvernement français, après un changement de majorité, a changé aussi de politique sur ce point. Le gouvernement d'Édouard Balladur a annoncé qu'il renonçait en principe à cette politique. Je crois que c'était largement inspiré dans l'esprit d'Édouard Balladur. Je ne sais pas si ça doit figurer dans le compte-rendu, mais enfin, à la limite, je n'en serais pas fâché. Édouard Balladur, en 1994, était présidentiable, candidat au présidentiel, estimait que la relation avec la Chine, c'était important dans l'héritage du gaullisme dont il voulait se parer. Et donc, il a poussé, avec quelques autres, à un changement de politique. Et l'émissaire spécial, c'était Jacques Friedman, qui était président d'Air France, a négocié un arrangement qui a permis de sortir cette crise. Mais à partir de là, les relations n'ont plus été pareilles. Il y avait quelque chose dans le contrat qui était brisé. Et ce qui est plus grave, et je reviens au sujet qui nous préoccupe ce soir, c'est que quelque chose était brisé aussi avec nos partenaires européens. C'est-à-dire tout ce que nous faisions pour dire aux Européens, allez, vis-à-vis de la Chine, il faut faire une structure commune, une politique commune, un dialogue commun, nous a valu, dans cette période, des remontrances de gens qui nous disaient, écoutez, vous faites cavalier seul, vous faites des choses qu'aucun d'entre nous ne fait, et après vous appelez à la solidarité, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on se mette tous à vendre des armes à Taïwan pour avoir une politique commune? Non, c'est pas possible. Et donc, il y a eu une rupture très forte du front européen qui s'est senti à Pékin, qui s'est senti à Bruxelles, qui s'est senti dans toutes les capitales sur la relation avec la Chine. C'est là où l'Allemagne est devenue le grand partenaire commercial de la Chine. Quelques autres, même la Belgique nous a dépassés. Enfin, il y a tout un tas. Et les chiffres peuvent être discutés et contestés, mais nous avons, je pense... eu un bénéfice important dans nos ventes avec Taïwan. Je dirais que à peu près 10 à 15 milliards de dollars entre les frégates et les mirages. Et de l'autre côté, nous en avons perdu au moins autant dans les contrats de télécom, de transport, d'aéronautique, d'énergie. La chose qui a été préservée, parce que la Chine en avait besoin, c'était le nucléaire. Et pendant toute cette période, le premier accord que nous avons signé en 1978, les premières centrales de Dayabé, puis les autres, grâce au Premier ministre Li Peng, qui était à la fois à la pointe du combat contre la France sur le vent d'armes à Taïwan, mais qui était en même temps la pointe du lobby nucléaire chinois, nous avons réussi à vendre, à continuer à être à la pointe de la coopération nucléaire avec la Chine. À partir de là, nous avons continué, évidemment, à développer nos relations. Jacques Chirac, en 1997, a signé ce qu'on appelle l'accord de partenariat stratégique avec la Chine. J'ai été nommé, moi, en fin 98, début 99, ambassadeur en Allemagne. Et la première chose que le nouveau chancelier, puisque j'étais nouvel ambassadeur au moment où l'Allemagne avait un nouvel chancelier, Gerhard Schröder, m'a dit... Moi, le partenaire d'avenir, c'est la Chine. L'Allemagne a toujours joué le Japon, mais maintenant j'ai compris que la Chine... Tout le patronat allemand s'intéresse à la Chine. Et j'ai dit à Jacques Chirac, que je voyais quand même assez régulièrement, essayez de vous entendre avec ce nouveau chancelier, au moins sur un point, parce qu'au début, on ne s'entendait pas sur grand-chose. Entendez-vous au moins là-dessus de mener France et Allemagne, à défaut d'une opération européenne bien structurée, essayer de vous entendre ensemble pour faire une politique commune en Chine. Et je veux dire que les choses tombaient bien, puisque c'était l'époque où on avait fait EADS, c'était l'époque où nous avions commencé à faire à travers Areva et KVU du côté allemand une vraie intégration nucléaire franco-allemande, et nous avions Airbus, c'est-à-dire que nous avions dans trois domaines des outils industriels intégrés, communs, qui faisaient que nous pouvions mener une vraie politique, au moins sur le plan industriel et plus largement sur le plan commercial, avec l'Allemagne, à défaut de le faire avec tous les Européens. Et à partir de là, les choses se sont développées, mais nous avons, nous, perdu progressivement en compétitivité, progressivement en place sur le marché chinois. Et ce qui s'est surtout passé à ce moment-là, c'est que la Chine, elle, a complètement inversé les rapports. En 2001, notamment grâce aux efforts de Pascal Lamy, la Chine entre à l'OMC. Elle a un très bon gouvernement, dirigé par un Premier ministre qui s'appelle Zhu Rongji, qui fait des réformes tout à fait spectaculaires. Et donc, Zhu Rongji et ses ministres se présentent à l'OMC en disant... Nous avons devant nous 15 ans de réformes qui vont faire de nous une économie libérale, transparente, un grand partenaire de l'Europe. Et donc à ce moment-là, on organise un scénario dans lequel, en 2016,
on donnera à la Chine, si effectivement toutes ces réformes se font, le statut d'économie de marché. Et elle sera un grand partenaire, à condition évidemment que face à ce grand partenaire, l'Europe elle-même s'organise. Or l'Europe ne s'organise pas, elle a toujours une politique commerciale, mais cette politique commerciale est de moins en moins efficace, je vais y revenir dans un instant. Elle a une politique monétaire, mais qui est encore balbutiante, et surtout ce qu'elle fait, l'Europe, à ce moment-là, et je m'aventure sur un terrain peut-être polémique, elle s'élargit. Et cette Europe qui va s'élargir, qui va passer de 12 à 15, et de 15 à 28 en très peu de temps, est une Europe qui perd sa capacité, à la fois par l'élargissement et, cerise sur le gâteau, par la réforme institutionnelle qu'elle opère à travers la Constitution européenne, elle va affaiblir sa capacité à dialoguer avec d'autres grandes puissances, et en particulier avec les États-Unis. Au moment où la Chine devient une très grande puissance économique, une très grande puissance industrielle et financière, et accède, grâce à l'accord avec l'OMC, au marché international, l'Europe perd ses armes, s'affaiblit, et progressivement est en train de se disloquer comme partenaire de l'Europe. Et donc, les rapports vont littéralement s'inverser. C'est-à-dire que l'Europe va devenir non pas le pôle qui offre à la Chine une coopération, mais au contraire le marché qui reçoit l'offensive chinoise en pleine figure, allais-je dire, alors que les États-Unis commencent eux-mêmes à se durcir, alors que le Japon se durcit, l'Europe, elle, devient le partenaire mou de la grande relation entre les différentes puissances. Et nous en arrivons à la période actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, la Chine est devenue une très grande puissance, la deuxième économie du monde, qu'elle a, en plus, sans qu'on s'en aperçoive jusqu'à une période récente, énormément changé sa gouvernance. Alors on a compris lors du deuxième mandat de M. Xi Jinping que les choses avaient un peu changé, que cette économie libérale était en fait une économie extrêmement dirigée, sur un mode apparemment libéral, mais très étatisé en arrière-plan, très contrôlé. J'y reviendrai dans un instant, parce que je crois que c'est un sujet sur lequel il faut regarder les choses clairement. Une Chine qui, à travers de nouvelles idées, notamment celle des routes de la soie, se met à vouloir au contraire pénétrer dans les autres économies mondiales d'une façon détournée, camouflée, mais en même temps extrêmement offensive. Et vis-à-vis de ça, l'Europe est en fait largement désorganisée et affaiblie. Ce rappel m'amène à poser maintenant les questions, et puis c'est sur ces questions que je souhaiterais ensuite qu'on puisse débattre. Quelles sont les chances aujourd'hui pour l'Europe d'avoir encore un rôle, un poids, avec possibilité de se faire entendre et respecter entre les États-Unis, la Chine et d'autres puissances, en particulier le Japon? Je pense que ces chances, pour l'instant, sont faibles. Pour la Chine, l'Europe n'existe plus. Elle existe. Vous voyez tous les jours des cartes de touristes qui visitent l'Europe en 5 jours, qui sont le matin à Milan, l'après-midi à Genève, le soir à Prague, et qui repartent après avoir fait le voyage de leur vie. Et qui sont envoyés aussi des cohortes dans les couloirs du Louvre, d'ailleurs. Mais l'Europe est une terre de culture, est une terre de tourisme, est une terre qui concerne la France en particulier d'achat de produits de luxe. Ça n'est plus le partenaire dont on parlait encore à Pékin il y a 10 ans ou il y a 15 ans, comme un partenaire d'alternance par rapport aux États-Unis ou au Japon, une solution de rechange, quelqu'un qui nous comprend mieux, avec lequel éventuellement on va pouvoir faire des choses que nous n'avons pas réussi à faire avec nous. Non seulement l'Europe n'existe plus, mais elle est devenue, depuis quelques années, elle a été renvoyée, en quelque sorte, sous le regard des Chinois, ou dans les analyses chinoises, comme un morceau de l'Occident. Je relate dans mon livre la séance assez frappante au moment où je remets mes lettres de créance au président de la République populaire de Chine de l'époque, où il me dit « Oui, vous êtes les Occidentaux, les Européens, vous êtes les Occidentaux, les Occidentaux, c'est les chrétiens, vous êtes tous dans cette même idéologie des droits de l'homme, de la charité, de la mansuétude, de la compassion. Nous, c'est l'ordre. Nous, c'est Confucius. La société doit être organisée. Il y a un soleil dans le ciel, il y a un empereur dans l'empire, il y a un père dans la famille, il y a un maître d'école à l'école. Tout est organisé sur un principe hiérarchique. Et c'est comme ça que ça marche. Et il y a peut-être une variante européenne et une variante américaine, mais vous êtes tous les mêmes. Et je veux dire que par rapport à ça, ce qui frappe quand on fait des voyages entre l'Europe, la Chine, les États-Unis, quand vous ouvrez votre presse, votre quotidien, votre télévision, c'est la même chose. C'est-à-dire que la notion d'occidentaux a supplanté presque partout la notion d'européen. Moi, je suis entré en diplomatie, je voulais dire, en 1964, parce que j'ai adhéré, mais fortement, et du fond du cœur, à l'analyse du général de Gaulle, selon laquelle, bien sûr, il y a un Occident, il y a une culture occidentale, il y a un monde libre, si on veut, etc., mais que tout, c'est ça qui a conduit à la guerre froide, à la coupure du monde en deux blocs. Et ce qui était intéressant dans la démarche que le général de Gaulle proposait en 64, c'est de casser les blocs, c'est d'avoir des grands ensembles ayant chacun leur personnalité, leur jeu propre, dans ce monde multipolaire. Et que dans ce monde, l'Europe avait une vocation parce qu'elle était européenne, qu'il fallait cultiver ce que l'Europe avait d'européen en rapprochant les peuples et en balayant les frontières entre les Européens pour constituer une vraie communauté européenne. D'ailleurs, l'Europe s'appelait à l'époque communauté européenne, ce qui est plus fort à mon sens que union, d'ailleurs. Et cette communauté, elle devait s'identifier comme telle par rapport à d'autres à l'intérieur du grand ensemble occidental. À la fois, à partir du moment où l'Europe n'a pas réussi à cultiver son identité, d'une part, à cultiver plutôt ses divisions, à travers l'élargissement, est devenu un ensemble de moins en moins homogène, dont on peut se demander... quand on a l'Europe à 28, si nous connaissons bien les uns et les autres. Moi, je me souviens, ayant fait la négociation du grand élargissement, lorsque nous avons négocié avec la Lituanie, ça a été très compliqué, on a pris quelques mois. Il fallait, lorsque le président de la Lituanie venait en France, aller jusqu'à rechercher très loin dans le passé à quel moment la France et la Lituanie avaient pu avoir des relations en commun. Et j'avais trouvé quelque chose qui est tout à fait percutant, c'est que Louis XIV, Colbert en fait, avait commandé en Lituanie des arbres pour la marine, parce qu'il n'y en avait pas assez dans les forêts françaises, et qu'on ne les avait jamais payés. Donc il y avait un contentieux ignoré. Bon, avec beaucoup d'autres pays, on trouve à chaque fois le petit fait datant du 15e, du 16e ou du 18e siècle qui nous a rapprochés. Mais c'est vrai que le sentiment d'appartenance à un ensemble commun, une histoire commune, la diversité des langues, ayant été des milliers de fois dans des réunions à Bruxelles, je sais que le jour où on a fait l'élargissement, non pas le grand élargissement, mais l'élargissement qui a précédé, celui qui a concerné la Finlande, la Suède et l'Autriche, dans l'ascenseur qui montait à la tête du Conseil, on ne pouvait plus comprendre... à l'intérieur de l'ascenseur, parce que bon, le finno-ougrien, le finlandais, le chinois, c'est des choses très, très sensibles. Alors que dans la petite Europe d'avant, italien, français, allemand, même espagnol, on entendait la conversation du voisin, on la comprenait, d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est cet ensemble de moins en moins homogène que les Chinois, de leur côté, voient comme quelque chose de très mou, qui n'a plus de frontières extérieures, ou pratiquement, qui a très peu de politique commune, malgré tout ce qu'on dit, qui a une monnaie qui est, disons, fébrile, et souvent pas très convaincante encore, j'y reviendrai aussi. Et cet ensemble, bon, il le renvoie dans cet Occident, et la vision géostratégique de M. Xi Jinping aujourd'hui, c'est très commode de pouvoir dire « il y a l'Occident et nous ». Et les Européens, dans leur tentative d'identité, d'indépendance, dans leur tentative d'exister, gênent, sont très gênants, parce qu'ils perturbent le jeu. Donc, on est menacé de ne pas exister aussi bien dans l'esprit de M. Trump, il l'a encore montré il y a quelques jours. Donc, toute idée d'indépendance de l'Europe, c'est une insulte aux États-Unis, mais c'est une insulte aussi pour les Chinois. Donc, nous sommes là dans une difficulté à exister. Et je crois que, je voudrais terminer sur quelques questions, comment peut-on espérer faire jouer à l'Europe un rôle dans cet univers qui est en train de se mettre en place? Je pense que c'est non pas en allant chercher des boules dans la tête de M. Trump, malgré sa belle mèche et ses cheveux blonds, etc. Car au fond, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il fait, les Américains lui renouvellent la confiance, au moins provisoirement, il a un soutien pour cette politique qu'il mène, et Mme Lagarde l'a encore dit hier ou avant-hier, tout ce qu'il dit n'est pas absurde. C'est vrai que quand les États-Unis ne couvrent que même pas le tiers de leur commerce extérieur avec la Chine, il y a quelque chose qui cloche. Et toutes les analyses montrent aujourd'hui que, et Pascal Lamy, avec qui j'en ai parlé il y a quelques jours encore, est le premier à en convenir, le rendez-vous de 2016 aurait dû être un clash épouvantable entre l'OMC et la Chine. La Chine, dans plein... les Chinois ne trichent pas. Simplement, ils ont profité de tout ce qui n'avait pas été mis sur la table dans l'accord de 2001. Ils n'ont pas fait les réformes qu'on espérait qu'on fait. Sur d'autres points, derrière une économie très libéralisée, il y a en fait la main du pouvoir qui est très très forte. Enfin, pas seulement les hommes d'affaires qui disparaissent ici ou là, parce qu'on leur demande à Pékin de venir rendre des comptes, et des gens... Même des hommes d'affaires de sociétés tout à fait privées sont entièrement pilotés par le pouvoir chinois. Donc on a une situation qui doit conduire à réviser la situation de la Chine par rapport à l'OMC. Et sur ce point, M. Trump n'a pas tout à fait tort. Bon, il a tort sur d'autres points, mais je pense qu'il est plus utile pour l'Europe, au lieu de se dire... est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il n'a pas tort, de dire qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans un saloon dans lequel il n'y a plus de shérif. Et les Chinois ont beau nous dire de leur côté, nous, on est pour le multilatéralisme, faisons cause commune, nous savons très bien que c'est une alliance qui est largement une alliance cosmétique et que la façon dont ils pratiquent le commerce international est également extrêmement douteuse. Donc, dans un saloon où tout le monde n'est pas... de bonne foi, la seule façon de ne pas se faire descendre, c'est de s'armer soi-même, et d'être en capacité de se faire respecter. Et donc, la solution pour l'Europe, ce n'est pas d'aller essayer de cogner à la porte de la Chine ou à la porte des États-Unis en leur demandant de bien vouloir nous respecter, c'est de nous rendre respectables, et de nous rendre suffisamment forts pour que nous ayons ensuite les revolvers sur la table, la possibilité de nous faire entendre. Alors, les pistes, je ne vais pas les énumérer ici, mais elles sont simples. C'est que nous ne pouvons pas faire une politique dans le monde à 28. Nous ne pouvons pas faire une politique à 28 dans le monde. J'ai évoqué les routes de la soie, j'y reviendrai si certains d'entre vous veulent en parler. Il est clair qu'un certain nombre de pays qui n'ont pas de politique extérieure, qui n'ont même pas d'intérêt dans les sujets dont on discute, retrouvent de l'intérêt pour le sujet qu'on met sur la table à partir du moment où quelqu'un leur a donné une enveloppe avec un billet pour savoir comment il faut faire. Il y a un certain nombre de pays de l'Est qui, dans la dans la réponse à faire à la proposition chinoise de faire une coopération sur la base des populations, on dit d'entrée de jeu, les Chinois ont raison. Il n'y a pas que les pays de l'Est. J'ai fait une conférence un jour en me demandant pourquoi le Portugal, ce grand pays qui a une tradition de 5 siècles de relations avec la Chine, même le premier, qui a eu une relation importante avec la Chine, eh ben, le Portugal, quand on discute aujourd'hui à Bruxelles de savoir si on peut avoir un règlement commun pour filtrer, il ne s'agit pas de les interdire, mais pour filtrer les investissements chinois, le Portugal est contre. La Grèce aussi, en disant, ben, voilà, vous n'étiez pas là quand on avait besoin d'aide, les Chinois sont venus, ils nous ont acheté l'énergie du Portugal, ils nous ont acheté le Pirée, ou en tout cas ils ont pris en location le Pirée, et donc maintenant c'est comme ça, vous ne ferez pas une réglementation européenne hostile à la Chine, on est contre. Donc la solution, c'est clair, c'est de la faire à quelques-uns, à ceux qui ont vraiment un intérêt direct à ce que l'Europe garde une certaine identité technologique et industrielle. Donc c'est la France, l'Allemagne, je dirais aussi la Grande-Bretagne et l'Italie. Et donc on découvre un des problèmes qui existe et qui devra être traité dans les mois et les années à venir, c'est le problème de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne sortira sans doute, j'espère que non, mais enfin bon, réaliste et pessimiste comme on doit l'être, elle sortira de l'Union européenne, il ne faut pas qu'elle sorte de la stratégie européenne. C'est-à-dire qu'il y a une façon de conduire, même avec des pays qui ne sont pas, qui ne sont plus dans l'Europe, des axes de politique internationale, et avec la Grande-Bretagne, c'est absolument fondamental. En Asie, et en particulier en Chine, la Grande-Bretagne est un très grand pays, et on ne peut pas avoir une politique franco-allemande s'il n'y a pas aussi quelque part autour la Grande-Bretagne, s'il n'y a pas aussi quelque part l'Italie. Je pense qu'entre ces puissances, peut-être quelque chose devrait pouvoir s'organiser. Mais c'est quelque chose qui est du domaine du rêve, peut-être. Ça fait 50 ans que je rêve à une politique européenne vis-à-vis de la Chine, et je ne veux pas arrêter aujourd'hui.
Complètement mort.
Merci. On voit, y compris du point de vue militaire, ça signifie beaucoup d'évolution, et ça explique aussi peut-être l'attitude des Américains, de Donald Trump, en tout cas de l'entourage vis-à-vis de l'Europe. Mais on ne va pas en parler tout de suite. Je vous propose de réfléchir, de discuter sur différentes tables, et on vous laisse manger. On vient vers vous dans un instant. Bon appétit.